DW. Le journal.
Bienvenue sur la DW alors qu'il est 17h en temps universel. Dans l'actualité de ce mercredi 27 novembre 2024, la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, favorable à une nouvelle constitution. C'est aux Congolais de trancher par un référendum, dit le président. Mais l'initiative divise profondément le pays. L'Église catholique se dit opposée à cette révision. Le chef de la transition gabonaise dans les bonnes grâces de l'Union européenne, Brice Clotaire-Oligui Nguema, est en visite à Bruxelles. À l'agenda des rencontres de haut niveau au sein de l'Union européenne, certains y voient un soutien à un putschiste. Le diamant centrafricain retrouve le marché international. Il n'était plus exportable en raison de la guerre civile dans le pays. Abria, une localité minière, on le verra, c'est le soulagement. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est en vigueur au Liban depuis minuit. Combien de temps va-t-il tenir? C'est l'une des questions que l'on se pose. À suivre également nos magazines Vue d'Allemagne et Learning by Ear. Georges Bremtounkara ce micro. Mais tout d'abord, le bulletin d'information avec vous, Marco Voltaire.
Bonsoir à toutes et à tous. Et on commence par le feu vert pour la nouvelle Commission européenne. Le Parlement européen à Strasbourg a validé aujourd'hui la nouvelle équipe. Elle va entrer en fonction début décembre avec à sa tête Ursula von der Leyen qui va ainsi démarrer son deuxième mandat de président de la Commission. Pour elle, l'Europe n'a pas de temps à perdre pour être compétitive et combler le fossé avec les États-Unis et la Chine. Sur le plan de la défense, elle a appelé à davantage d'efforts pour rivaliser avec les dépenses militaires russes. L'économie et la guerre en Ukraine sont d'autant plus prioritaires pour Bruxelles que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait signifier de nouvelles barrières douanières et la fin du soutien américain à Kiev. Un nom de cette nouvelle équipe que vous entendrez souvent est celui de l'ancienne première ministre estonienne, puisque Kaja Kallas sera la nouvelle chef de la diplomatie de l'Union européenne en remplacement de Josep Borrell.
Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur entre Israël et le Hezbollah.
Un accord largement salué par la communauté internationale, en premier lieu par les États-Unis, à l'initiative de cet accord avec la France. Washington salue une bonne nouvelle et veut redoubler d'efforts diplomatiques pour désormais obtenir une trêve dans la bande de Gaza. Le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche parle d'un début d'opportunité pour un Moyen-Orient plus stable. La ministre allemande des Affaires étrangères voit, elle, dans cet accord un rayon d'espoir pour la région tout entière. Enfin, la diplomatie russe a salué du bout des lèvres et tardivement le cessez-le-feu, tout en semblant douter qu'il puisse fonctionner réellement.
La Russie expulse deux journalistes du groupe audiovisuel public allemand ARD.
Moscou explique en effet qu'il s'agit d'une réponse à la fermeture du bureau à Berlin de la chaîne de télévision russe Pervy Canal. Une fermeture que la chaîne a elle-même annoncée comme étant une décision des autorités allemandes. Or, le gouvernement allemand, lui, dément avoir ordonné la fermeture de Pervy Canal, qui veut dire première chaîne en russe, une chaîne qui défend férocement l'invasion russe de l'Ukraine. La ARD dénonce les expulsions des deux correspondants à Moscou et rappelle que la pression sur les journalistes occidentaux n'a cessé d'augmenter depuis février 2022 et le début de la guerre en Ukraine.
Une cinquantaine de personnes ont été sauvées en mer Méditerranée par le navire humanitaire Océan Viking.
Le bateau est affrété par SOS Méditerranée. Il a porté secours à 48 migrants qui se trouvaient à bord d'une embarcation surchargée au large de la Libye. 90% des rescapés sont des mineurs non accompagnés, la plupart originaires de Gambie et de Guinée-Bissau. C'est le signalement par un avion de l'OTAN qui a permis de repérer le groupe en détresse. À cause d'un règlement restrictif de l'Italie, eh bien ce navire va devoir parcourir plus de 1500 km, soit 4 jours de navigation, pour rejoindre un port au nord de l'Italie et faire débarquer ce groupe.
Enfin, Marco, Volkswagen compte mettre fin à ses activités au Xinjiang.
C'est dans cette région chinoise que Pékin est accusé d'avoir incarcéré plus d'un million de Ouïghours et d'autres minorité musulmane dans un réseau de centres de détention. Le premier constructeur automobile européen est critiqué pour sa présence dans la région où Volkswagen dispose d'une usine depuis 2013. Des allégations de travail forcé dans cette usine qui compte quelques 200 employés ont émergé dans plusieurs médias. Des accusations démenties par un audit externe commandé par Volkswagen. L'annonce intervient alors que le groupe automobile traverse une crise globale sans précédent et négocie actuellement un plan d'économie. Ce plan pourrait conduire à des milliers de licenciements et même des fermetures d'usines en Allemagne.
Le bulletin d'information, c'était Marco Wolter sur la DW, la radio internationale allemande. Il est 17h05 en temps universel, 18h05 à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
DW.
En République démocratique du Congo, depuis la province du Tanganyika, où il séjourne actuellement, le président Félix Tshisekedi, le président congolais, a appelé la population à s'approprier le projet de révision constitutionnelle, un appel qui suscite une attention particulière au sein de la population congolaise, d'autant que le débat sur une éventuelle modification ou changement de la constitution reste entouré de flous depuis plusieurs mois. Wendy Bashi.
Les déclarations de Félix Tshisekedi au sujet de la Constitution sont explicites. Je cite « Vous êtes un peuple plein d'initiatives qui a combattu la dictature la plus atroce. Vous devez aussi prendre l'initiative pour ce qui est de cette Constitution qui ne vise pas l'intérêt de la nation congolaise. » Fin de citation. Cependant, cette initiative ne peut aboutir que si la population est pleinement informée et son choix respecté. C'est ce qu'a rappelé Maurice Kabange, un jeune leader politique de la province du Tanganyika, où le chef de l'État congolais est actuellement en visite.
C'est question de rassurer à la population de quoi il s'agira s'il y aura des changements de la Constitution et même modifications ou toute autre action à mener sur la Constitution.
Comme ça va se passer par référendum, c'est un exercice démocratique. Là, il va falloir respecter l'avis du peuple.
La Constitution congolaise ne prévoit pas de changement, mais parle de révision. Le politologue Christian Moleka souligne que l'article 218 définit les conditions d'une révision, soit un vote des deux chambres réunies en congrès, soit un référendum convoqué par le président. Selon Christian Moleka, le scénario du référendum semble être celui privilégié.
Les différents arguments présentés pour soutenir la révision ont eu du mal à passer dans l'opinion, que ce soit l'argument sur l'article 51, l'argument sur l'article 217. Et donc la saisie aujourd'hui est claire et très claire et assumée, à savoir changer de constitution, ce qui aura le mérite de faire sauter les verrous de 120 qui permettra au président d'avoir un autre mandat au-delà de deux constitutionnels aujourd'hui.
L'un des sujets de débat porte sur le coût du référendum et sa pertinence face aux priorités urgentes des Congolais. Dans une récente interview accordée au magazine La Croix, Mgr Donatien Chaud, le secrétaire général de la CENCO, a déclaré que la situation socio-économique des Congolais devrait être la priorité des gouvernants plutôt que de penser à changer les textes fondamentaux. Une position partagée par Augustin Mouessi qui enseigne les sciences politiques dans l'Est de la RDC.
Tout le monde sait qu'à l'Est de la RDC, la guerre menée par les M23 et une insécurité grandissante. Mais il y a également des déplacés de guerre qui auraient bien voulu rentrer chez eux. Voilà donc un contraste entre ce que veut le président et le peuple.
Martin Fayoulou, figure emblématique de l'opposition, s'oppose fermement à ce projet. Sur son compte X, il a mis en garde contre une potentielle dérive autoritaire et une aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays.
Wendy Bashi, comment réagit-on sur la toile à ce débat? Mireille Drone vient de me rejoindre en studio. Mireille, bonsoir.
Bonsoir Georges Ibrahim, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, ce projet de révision ou de changement de la Constitution suscite de nombreux commentaires de la part de nos abonnés sur les réseaux sociaux.
Oui, Anzolo de Lumumbashi craint que Félix Tshisekedi veuille juste distraire la population face aux vrais problèmes du pays. Voilà pourquoi il vient de créer un autre feuilleton intitulé « Changement de la Constitution », écrit-il. Après la campagne électorale et ses promesses, on se lance dans la campagne pour le changement de la Constitution. Entre-temps, le peuple continue de souffrir, note Baudry de Kinshasa. Et Desmond, autre abonné sur Facebook, se demande aussi « qu'est-ce que ça va changer pour nous, le petit peuple ?» Tshisekedi veut juste rester au pouvoir, dit-il. « Ce n'est pas la Constitution qui développe un pays », note Jean-Jacques de Kinshasa, « alors que nous manquons de tout. Aujourd'hui, il est clair que le président, par ce subterfuge, vise un troisième mandat lorsqu'il cherche à changer totalement la Constitution, ce qui lui permettra d'utiliser sa majorité au Parlement. Et s'il faut nous amener au référendum, avec sa CENI, le oui l'emportera. Albert de Kinshasa suggère au président Tshisekedi de cesser les sorties médiatiques sur la Constitution, mais qu'il change le texte calmement et nous présente avant sa maquette pour savoir si nous serons pris en compte, demande-t-il. Selon Edel Uboya, autre abonné congolais sur Facebook, la Constitution de la RDC ne se résume pas au nombre de mandats, et dans son état actuel, elle n'est pas sans problème. Une révision ou un changement de constitution serait donc bienvenue, selon lui, pour en combler les lacunes.
Mireille Drone en direct sur la DW. J'ajoute, Mireille, que le député Deli Sesanga dénonce une tentative de préparer un troisième mandat présidentiel. Il appelle à une mobilisation massive le 16 décembre prochain. Et vous pouvez continuer à réagir à cette actualité en vous rendant simplement sur notre page Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Vous pouvez réagir également à la situation politique au Gabon. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en visite à Bruxelles. Au menu de son agenda, une rencontre avec les autorités du Conseil européen et de la Commission européenne. Il devrait notamment être question de coopération économique et du processus de transition en cours au Gabon depuis le coup d'État du 30 août 2023. Brice Clotaire Oligui Nguema à Bruxelles, quelle lecture peut-on en faire? Je vous propose d'écouter l'analyse du journaliste et écrivain gabonais Joski Andrew Ondo Luemba.
Je n'ai pas de réaction particulière. C'est une visite qui s'inscrit dans le droit fil des relations bilatérales entre l'Union européenne et le Gabon. Le Gabon qui est un État comme un autre, donc il est normal que le chef d'État de ce régime, qui n'est pas un chef d'État marginal, ce n'est pas le président de la Corée du Nord. Donc c'est normal qu'il soit reçu. Il n'y a pas de commentaires spécifiques, même si certains pro-zélateurs de M. Oligui Nguema, ils le voient comme une consécration. Mais la seule consécration qui prévaudrait, qui devrait prévaloir, c'est celle d'avoir été élu par les Gabonais, ce qu'il n'est pas.
Alors, quel regard vous jetez aujourd'hui sur la transition gabonaise?
La transition est un échec, c'est un échec cuisant. Il aurait fallu organiser une élection dans les 6 mois. Des militaires, des généraux l'ont appelé formellement à se présenter, mais au cadre de l'administration formelle est là, du moins c'est l'appel à se présenter. C'est une absurdité, c'est une mascarade, sans parler de la question des droits de l'homme, où là on est complètement dans le pire de ce qui se faisait avant. Et les symboles les plus emblématiques sont ceux qui arrivent, parce que ce sont les personnalités les plus connues, ceux qui arrivent à l'ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo, qui est dans une procédure clairement extrajudiciaire, ainsi que son fils Noureddine Bongo, mais aussi il y a d'autres et beaucoup d'autres. Je pense à Yann Kogou aujourd'hui, qui a été jeté en prison, torturé, parce qu'il a demandé à Brice Oligui Nguema de quitter le pouvoir puisqu'il était légitime. Je pense aussi, là, tout récemment, à un neveu d'Hervé Patrice Opianga, qui a été emmené à la présidence de la République, torturé dans l'enceinte, je cite ce neveu, Warren Opianga. Son seul crime est d'être le fils du petit frère d'Hervé Patrick Opianga, ancien ministre des Mines, que Brice Oligui Nguema lui-même avait nommé, en oubliant qu'il était propriétaire d'une holding. Enfin, oui, on marche sur la tête, et je pourrais encore en citer plus.
Voilà, le journaliste et écrivain gabonais Joski Andrew Ondo Luemba, que j'ai joint juste avant ce journal. Et j'ajoute que le chef de l'État gabonais a signé avec la Commission européenne plusieurs partenariats stratégiques, dont un accord pour la gestion durable des forêts et une déclaration d'intention pour le financement de la réhabilitation du chemin des fers trans-gabonais. En plus bref, la tension en Tanzanie, un candidat et un responsable du parti d'opposition Chadema ont été tués hier, c'est-à-dire à la veille des élections locales qui se déroulent ce mercredi, c'est ce que dit l'opposition. Les deux décès ont eu lieu hier mardi soir, donc, a affirmé Chadema dans un communiqué. Les élections locales qui se tiennent ce mercredi sont considérées comme un baromètre avant les présidentielles législatives de 2025 et un test démocratique dans un contexte de répression politique accrue ces derniers mois. Les Namibiens étaient quant à eux aux urnes aujourd'hui également pour les élections les plus incertaines qu'ait connues le parti historique au pouvoir. Sa candidate Netumbo Nandi Ndaitwah, en position de devenir la première femme présidente du pays, pouvant être contrainte à un second tour inédit. Elle affronte la concurrence de l'ancienne dentiste et avocat Pandelune Itula, 67 ans, qui a fondé en 2020 sa propre formation, le Parti des Patriotes Indépendants. Il y a une semaine, un transporteur camerounais avait été tué à quelques kilomètres de Bangui, un meurtre attribué aux paramilitaires du groupe Wagner, supplétif de l'armée centrafricaine. Comme conséquence immédiate, les camionneurs camerounais ont suspendu leur leur trajet vers Bangui et exige l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet assassinat. Face à l'impact de ce drame, la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, Sylvie Baipo-Témon, a pris la parole lors d'une conférence de presse consacrée à la coopération entre Bangui et Moscou. Elle a critiqué les auteurs de ce crime, estimant qu'il met en péril l'économie nationale et les relations étroites avec le Cameroun, un pays voisin. Les propos de Sylvie Baipo-Témon ont été recueillis par Jean-Fernand Kouena.
Dans le cadre de nos relations avec d'autres partenaires, le principe est clair. La terre centrafricaine ne doit pas servir de terrain pour nuire à d'autres. Surtout qu'avec le Cameroun, nous avons d'excellentes relations et le corridor de la Bangui est un corridor qui est vital pour la République centrafricaine. Donc la République centrafricaine ne peut pas accepter qu'il y ait une tension ou quoi que ce soit avec le Cameroun, ce qui est sûr. Et ça vaut pour l'ensemble des partenaires. Je pense que je le dis assez régulièrement, quel que soit le partenaire, dès qu'il y a un sujet, c'est attention. Nous sommes souverains, nous choisissons nos partenaires. Et en terre centrafricaine, c'est l'harmonie que nous voulons. Il n'y a pas de partenaire plus que d'autres. Il faut que les choses soient au même niveau et nous sommes là pour intervenir, réagir quand les choses se passent. Il y a souvent des fois des sujets un petit peu émotifs, mais on peut penser qu'on n'est pas sensible à ça. Si nous sommes sensibles à ça, mais nous devons, en ce qui concerne la réaction diplomatique, nous sommes tenus au rapport qui a été fait et des discussions. Je l'ai dit, ça a été remonté au niveau du chef du gouvernement. Nous allons, République centrafricaine, prendre des mesures pour répondre aux revendications de nos frères camerounais qui est exprimée. Donc ça veut dire que nous les avons entendus et nous allons voir sur le terrain comment et des discussions seront entamées avec eux. S'agissant d'une situation à la frontière et en tout cas d'une situation concernant, les incidents sont par nature des incidents, mais en tout cas la République africaine veille à ce que tous les ennemis de la paix puissent répondre de leurs actes, mais également dans le cadre du partenariat, que les efforts de tous convergent et que l'énergie de tous soit positionnée pour pouvoir faire le pourquoi ils sont venus en terre centrafricaine, ça veut dire appuyer la terre centrafricaine dans ses difficultés.
La ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, dans des propos recueillis par Jean-Fernand Kouena. On reste encore en Centrafrique. La guerre civile dans ce pays a contraint le processus de Kimberley à sanctionner depuis 2013 l'exportation de diamants en provenance de ce pays. Mais cette sanction a été totalement levée le 15 novembre dernier, à l'issue de la plénière du processus de Kimberley qui s'est déroulée à Dubaï. Abria, une localité minière qui vit essentiellement de l'extraction de diamants et d'or. L'activité a été durement affectée par ces sanctions et désormais c'est donc le soulagement. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Fernand Kouena.
Nous sommes à Bria, une ville située dans le nord-est du pays. Ici, l'activité minière de diamants et de l'or tournait au ralenti depuis l'embargo décidé par le processus de Kimberley. Durant toutes ces années, Hassan et son équipe ont tout de même continué à travailler pour vendre un peu de diamants sur le marché noir.
Je suis le chef du chantier. Avant l'embargo, on vivait bien. On vendait nos pierres précieuses, on payait nos taxes et nos enfants vivaient bien.
Avec la levée du blocus, la localité peut désormais de nouveau exporter ses diamants. Un retour à la vie normale pour les exploitants et les mineurs. Alain Kongbo est un exploitant artisan.
La levée de l'embargo sur le diamant de la Haute-Coteau, ça nous fait plaisir parce que c'est la seule activité que nous, les jeunes, la population de Bria exerce. Merci aussi le gouvernement qui a beaucoup plaidé avec leurs partenaires. L'embargo a été levé. Donc ça va nous permettre d'aller au chantier et exercer notre activité. Et c'est par rapport au travail du diamant, la population a eu la chance de construire leur maison, aider leurs enfants à aller à l'école.
L'interdiction d'exportation prononcée en 2013 après le renversement du président François Bozé a été partiellement levée en 2015 et 2018. Mais les sanctions frappaient encore les deux tiers des zones minières diamantifères du pays. Un embargo qui a fait chuter l'industrie du diamant en République centrafricaine. En 2011, le pays exportait un peu plus de 300 000 carats de diamants, ce qui représentait une valeur de 29,7 milliards de francs CFA, soit environ 49 millions d'euros. En 2023, les recettes avaient chuté de quasiment 90%. Si le gouvernement voit en cette levée de l'embargo une victoire diplomatique, la levée des sanctions survient toutefois dans un contexte morose pour le diamant. Rufin Benam Beltungu est le ministre des Mines et de la Géologie.
Malheureusement, cette décision est arrivée à une période où le cours du diamant est au plus bas. Mais nous allons continuer à travailler pour permettre aux artisans miniers eux-mêmes de reprendre le chemin de la production.
La contribution du secteur minier pour le diamant et l'or représentait 11% du PIB de la Centrafrique en 2011. Aujourd'hui, il n'est plus qu'environ 6%. Après la levée totale des sanctions du processus de Kimberley, les autorités centrafricaines devront toutefois parvenir à convaincre les bureaux d'achat à revenir pour relancer une industrie qui s'est effondrée. Jean-Fernand Kouina, à Bangui pour la Deutsche Welle.
18h19 à Briya en Centrafrique, 19h19 à Bujumbura au Burundi. Le Burundi qui a annoncé avoir libéré ces dernières semaines quelques 4000 détenus accusés de crimes mineurs pour désengorger ses prisons surpeuplées. Ce programme lancé mi-novembre vise à libérer au total 5442 de ces détenus. C'est ce qu'a ajouté la présidence dans un message publié sur X dans la nuit de mardi à mercredi.
Vous écoutez la DW.
Et merci de votre fidélité à la DW. Elle était notre invitée ce matin, Samira Sabou, symbole du journalisme courageux. Elle a reçu le 21 novembre dernier à New York le prestigieux prix du Committee to Protect Journalists pour la liberté d'expression. Dans un Niger où la presse est réduite au silence par la junte militaire, elle s'est affirmée comme une voix forte et résiliente face aux différentes pressions. Son engagement pour la vérité en fait une figure incontournable de la défense de la liberté de la presse en Afrique. Samira Sabou est au micro de Jean-Claude Abalo.
Tout citoyen de son pays qui rapporte un prix, je pense que ce prix aussi a une connotation. Et tel que je l'ai dit, cette connotation pour le Niger, pour mon pays, doit être celle de dire que nous ne sommes ni les meilleurs, ni les pires en matière de liberté d'expression, ni les pires. Cela suppose que nous avons encore du chemin à faire.
Aujourd'hui, on sent que la situation est dégradée en matière de liberté de presse dans les pays de l'AES. Qu'est-ce que vous souhaitez dire par rapport à ça?
Oh, ça, c'est une très grande question. J'ai de l'amertume, j'ai de la tristesse quand je vois beaucoup de journalistes qui se sont battus, pas que des journalistes, des chefs d'État aussi qui ont justement ratifié des conventions. Quand je regarde en arrière en 2010 où on avait justement tant de droits, où les délits commis par voie de presse n'étaient pas pénalisés, je me demande si nous pouvons retrouver ces acquis. Je me demande si nous aurons ce courage justement de trouver les moyens de démontrer à nos gouvernants, même s'ils sont militaires, de leur montrer que nous pouvons être utiles dans cette lutte contre l'insécurité et que d'exposer justement les faits et ce qui se passe ne peut qu'être utile pour que tous ensemble, parce que cette guerre, ni les militaires ne la gagneront seuls, ni les populations gagneront seules, mais c'est ensemble, connaissant les faits, connaissant ce qui se passe sur le terrain, que les gens peuvent se donner les moyens de changer les choses. Mais tant qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exposées au grand public, je pense qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Donc quand les militaires aujourd'hui font référence à certaines problématiques, il faut que ces problématiques soient aussi, à mon avis, peut-être que je me trompe, exposées dans leurs détails au grand public pour que le public concerné puisse prendre les dispositions qu'il faille. Mais tant que l'ensemble des détails ne sont pas exposés, je pense pas que nous pouvons prendre les moyens qu'il faille.
La journaliste Samira Sabou, interrogée par Jean-Claude Abalo. Et puis un mot encore des médias au Mali. La Haute Autorité de la Communication, la HAC, a mis en application sa décision de retirer la licence de la chaîne de télévision Djoliba TV. Le signal de la chaîne a été coupé par les autorités en application de la sanction prise après une saisine des autorités du Burkina Faso. Toujours au Mali, 4 employés maliens de la compagnie canadienne Barrick Gold, propriétaire avec l'État malien de l'un des plus importants complexes aurifères au monde, ont été inculpés et placés en détention en attendant leur procès. Barrick Gold a dit contester les charges sans les préciser. Le panafricaniste béninois Kémi Séba souhaite être une alternative au président béninois Patrice Talon. C'est ce qu'il a déclaré dans une vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux sans formellement dire qu'il veut être candidat à la prochaine élection présidentielle. Mireille Drone, vous êtes encore avec moi dans ce studio. Vous avez glané quelques réactions à ce sujet.
Et oui, l'homme là incarne la vérité de notre génération. Il apparaît comme l'un des rares citoyens à la conscience bien debout, affirme Libre Penseur sur Facebook. Mais pour Marie de Porto Novo, la vie sur les réseaux sociaux est très différente de la réalité. Aucun Béninois sérieux ne va suivre ce voyou qui ne fait que mentir pour plaire et n'a jamais fait quoi que ce soit pour le pays. C'est juste un idéologue. Le Bénin n'en a pas besoin, affirme-t-elle. Après avoir terni l'image du pays chez les voisins, il veut maintenant être son dirigeant. On aura tout vu, proteste Jules d'Abomey-Calavi. Pour Élodie de Cotonou, ce n'est pas en jouant les rebelles sur Facebook qu'on devient président. Critiquer, c'est facile, mais gérer un pays, c'est autre chose. Elle conseille donc à Kémi Séba de redescendre sur terre. Déçu, Marius d'Azovet pense que Kémi Séba œuvrait pour l'autodétermination des Béninois. Mais tu nous invites juste à changer de maître. Tu veux nous vendre aux Russes pour marquer les Français, note-t-il. Sur un ton moqueur, Kassani de Cotonou observe que Kémi Séba pense que gérer un État, c'est comme diriger une association de quartier. Qu'il continue de faire ce qu'il fait pour ses employeurs, c'est mieux, suggère-t-il. Serge d'Abomey-Calavi dit qu'il ne voterait pas pour lui s'il est candidat, mais que ça n'est pas une raison pour mépriser ce panafricaniste. Kémi Séba a certainement un rôle politique à jouer, mais pas à ce niveau de responsabilité, croit encore Sonagnon, autre abonné béninois. Il ne suffit pas de savoir crier l'anti-colonialisme pour pouvoir diriger un pays moderne. Kémi Séba n'a donc pas le profil pour être une alternative à Patrice Talon, conclut-il.
Mireille Drone, pour condenser de vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci Mireille et excellente soirée à vous. Encore un mot du Bénin, le chef du régime militaire du Niger a nommé un nouvel ambassadeur au Bénin. C'est le dernier signe d'un apaisement des relations entre les deux pays voisins. Chaibou Kadade, greffier, le nouvel ambassadeur auprès de la République du Bénin, indique le décret signé mardi par le général Abdourahmane Tchiani. Le Moyen-Orient à présent, avec cet accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur entre Israël et le Hezbollah au Liban, un accord négocié à l'initiative des États-Unis et de la France. Dès l'aube, des milliers de personnes ont commencé à regagner le sud du Liban, donnant lieu à d'énormes embouteillages sur les routes. L'armée libanaise a toutefois appelé les habitants à faire preuve de patience et à attendre le retrait des forces israéliennes. Précision, Marco Volter.
Oui, car ce retrait, tout comme celui des combattants du Hezbollah de la frontière sud du Liban, doit s'effectuer sur une période de 60 jours. Le retrait doit s'accompagner du redéploiement de l'armée libanaise, avec à terme 6 000 hommes, ainsi que des quelques 10 000 casques bleus que compte la FINUL, la force onusienne, dont le contingent devrait être revu à la hausse. L'accord s'appuie ainsi sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui avait mis fin au conflit entre Israël et le Hezbollah en 2006. Un comité de surveillance dirigé par les États-Unis doit superviser cette trêve, car cette période de transition de 60 jours laisse beaucoup de place aux erreurs de calcul ou aux violations du cessez-le-feu. L'inquiétude du côté israélien est de voir le Hezbollah profiter de ces deux mois pour se réarmer et ne pas se retirer. Des doutes subsistent sur la capacité du gouvernement libanais d'empêcher les ventes d'armes à l'organisation terroriste. Selon un correspondant de la ARD en Israël, les habitants des localités israéliennes évacués ne veulent pas revenir tant qu'ils auront à craindre cette menace. Dans une déclaration au ton martial, le Premier ministre israélien a assuré qu'Israël maintenait une totale liberté d'action militaire. Selon Benjamin Netanyahou, si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons. À voir également si cet accord peut permettre de débloquer les négociations sur une trêve dans la bande de Gaza. Les États-Unis ont annoncé de nouveaux efforts diplomatiques dans les jours à venir.
Sans transition, le sport en football de la 5e journée de la Ligue des Champions se poursuit ce soir. 9 matchs sont au programme, dont une rencontre en Serbie opposant le Dynamo Zagreb au Borussia Dortmund.
Le Borussia Dortmund compte 9 points, ce qui place provisoirement le club de la Roure à la 10e place avant le match de ce soir à Belgrade. L'objectif pour le BVB est de terminer dans le top 8 avant les phases à élimination directe. Cependant, l'entraîneur Nuri Sahin appelle ses joueurs à rester concentrés face au Dynamo Zagreb. Nous ne voulons pas nous écarter de notre style de jeu. Nous souhaitons garder la possession du ballon. J'ai personnellement regardé de nombreux matchs du Dynamo Zagreb pour mieux comprendre leur style de jeu. Champion d'Europe en titre, le Real Madrid se déplace en Angleterre pour affronter Liverpool. Un déplacement difficile, d'autant que les clubs anglais sont quasiment imbattables dans cette Ligue des Champions. 4 victoires en 4 matchs pour Liverpool. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, reste prudent.
Liverpool
a toujours été une équipe très compétitive et très dangereuse. C'était déjà le cas avec Klopp. Nous abordons ce match avec notre confiance habituelle, tout en sachant que ce sera très exigeant. Nous voyons cela comme une grande opportunité de revenir à notre meilleur niveau. Je suis convaincu que ce sera un grand match.
Et tengo que confianza total que va a ser un gran partido.
La Juventus se déplace également en Angleterre pour affronter Aston Villa, tandis que les Néerlandais du PSV Eindhoven accueillent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Celtic et Glasgow se mesurent aux Belges du club Bruges. Et parmi les autres rencontres, Bologne affrontera Lille, tandis que Monaco sera opposé à Benfica. Tous ces matchs débuteront ce soir à 20h temps universel.
17h30 en temps universel, place à présent à nos magazines, et c'est Anne Letouzé qui s'installe pour Vue d'Allemagne.